L'association La Belle Garnoule organise tous les deuxièmes dimanches du mois une balade botanique dans Arras en partenariat avec l'association Les Rats d'en Haut. On en parle avec Coriandre Prudhomme, écologue, présidente de l'association La Belle Garnoule et animatrice de la chronique Dur de la Feuille sur PFM à ses heures perdues.
Alors actuellement, c'est moi qui l'anime, mais peut-être que le relais va bientôt se faire avec d'autres garnoules qui sont aussi motivées pour l'animer. Le principe de base, c'est on va donner envie aux curieux, à la curieuse, de regarder un peu à ses pieds ce qui se passe en ville, à proximité du coup du Rat-Perché, c'est le départ de la balade, pour un peu lui mettre un nom. Sur cette petite verte qui se balade parfois un peu difficilement quand même entre les pavés. Et du coup, le nom, l'idée, c'est de venir le graver temporairement dans le béton avec de la bombe à craie et des pochoirs qui sont préalablement réalisés. On va vraiment essayer de, à la fois, se familiariser avec le vocabulaire botanique et aussi de s'émerveiller tout simplement devant cette vie qui arrive à s'épanouir avec si peu. Et je trouve ça très amusant, c'est qu'au départ, il y a beaucoup de réticence à se plonger dans l'univers et au fur et à mesure de la balade, ça devient un jeu. Le jeu de reconnaître celle qu'on a déjà vue une ou deux fois au début de la balade, de se souvenir d'au moins un nom botanique et de pouvoir l'associer à une famille puisque à la fin de la visite, c'est demander à gagner en autonomie, donc à ce que celui qui a participé puisse prendre une des flores, hein, des bouquins sur les plantes, et à savoir l'utiliser seul. Et pour ça, il faut avoir des bases de compréhension des familles végétales, des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment le principe même de l'atelier, c'est qu'on puisse après ne plus venir forcément à l'atelier pour comprendre ce qu'il y a à nos pieds et pouvoir utiliser un bouquin tout seul, comme un grand.
Donc du coup, on apprend au fur et à mesure de notre balade les noms communs, les noms latins, les familles botaniques aussi de ces plantes qu'on croise sur notre chemin. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de plantes comme ça qu'on peut croiser en fait au détour de la balade ?
Alors, tout dépend du circuit parce que chaque fois j'en fais un différent. Sinon, c'est un peu de la triche vu qu'il y a les restes des précédentes sessions qui parfois sont pas totalement effacées et du coup il y a direct écrit le nom, donc c'est pas drôle.
Des plantes qu'on peut croiser en milieu urbain.
Alors oui, donc les plantes qu'on peut croiser, on a notre très cher cymbalaire des murailles, Cymbalaria muralis, qui ressemble avec sa fleur à une tête de singe et ses feuilles, on pourrait les assimiler à des cymbales pour essayer de retenir son nom. Elle va venir grimper sur les murs, dans les interstices. Elle forme de véritables tapis, donc elle est très intéressante pour son pouvoir recouvrant. On va avoir notre cher et tendre pissenlit qui va venir s'épanouir un peu aux quatre coins des rues, au milieu des pavés, avec pas grand-chose. Et avec cette racine, du coup, pivot qui peut descendre jusqu'à 2,40 m en profondeur dans le sol. C'est une des familles végétales, une des dernières à être apparue sur Terre, la famille des astéracées, hein, donc la famille des pissenlits, des pâquerettes, des tournesols. Et cette famille est tellement, tellement souple et adaptable qu'on va la retrouver à plusieurs endroits. On va la retrouver aux côtés du pâturin, par exemple, une autre famille, hein, la famille des poacées, la famille dite des graminées. On va la retrouver également pas très loin aussi de notre Stellaria media, hein, la stellaire. Elle a un nom magnifique parce que sa fleur est en forme d'étoile. Tellement de petits indices rien que dans le nom sur ce qui nous est présenté en couleur et en forme.
Alors, au début de la balade, tu nous fournis aussi une petite fiche de ta composition avec des petits indices pour essayer de reconnaître les plantes. Mmh. Alors là, moi, je me suis dit, oh, bah ça va, j'en connais deux, trois. Il y a le coquelicot, il y a le pissenlit. Et en fait, j'ai galéré quand même au début. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est cool. Ces petites plantes, elles ont la vie dure un petit peu quand même en milieu urbain. Faut qu'elles se trouvent une petite place dans une fissure, dans un recoin. Faut qu'elles fassent attention aussi aux agents municipaux qui vont éventuellement les arracher, mettre de l'herbicide.
Brûler.
Les brûler, carrément.
Ils les brûlent, ouais. Au lance-flamme. C'est assez impressionnant. C'est surtout assez fort comme geste. Je me souviens, quand je travaillais au Conseil Général, il y avait un des agents qui passait ça au lance-flamme des fougères. Et je me dis, mais s'il savait qu'il était en train de passer au lance-flamme un des restes des premières plantes qui se sont dressées sur notre planète. Mais est-ce qu'il se rend compte au moins ce qu'il est en train de brûler comme ça? J'avais l'impression de voir une mini-météorite. Enfin, bref, c'est ma vision. Mais il faut savoir aussi qu'à Arras, il y a une nouvelle politique au niveau des plantes urbaines spontanées. On essaye normalement de les laisser en place. Après, va savoir si ce sont les habitants qui se plaignent ou si ce sont certains agents qui sont récalcitrants et qui continuent de les enlever à certains endroits. Mais de manière générale, il y en a un peu plus ces deux dernières années. On a vu quelques panneaux qui ont été retirés depuis, mais il y a une politique qui commence à aller dans le sens où on va valoriser le peu de vie qui arrive à se frayer un chemin.
Ces plantes, elles sont plutôt en général qualifiées de mauvaises herbes. Et pourtant, c'était intéressant de voir que parmi nos camarades d'hier, il y en a qui n'arrêtaient pas de demander « Mais c'est des plantes médicinales, ça? Est-ce que ça se mange ?»
Oui, mais ça commence vraiment à émerger. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces plantes? Ça vient avec l'émergence de mouvements qui sont assez intéressants en milieu urbain, hein, avec toutes ces activités de sensibilisation du public, où, effectivement, pour intéresser l'usager lambda des espaces publics, le mieux étant de lui dire comment est-ce qu'il va utiliser la chose. Alors moi, je suis un peu récalcitrante, et même si je suis très admiratrice de chaînes YouTube comme Les Chemins de la Nature, où effectivement on va comprendre comment se servir, utiliser les plantes, soit pour les qualités médicinales, soit pour les qualités nutritives. J'ai quand même de grandes réticences parce qu'on exploite déjà des sols, on exploite déjà des terres sur notre territoire, on a énormément de gâchis alimentaires. Je vois pas pourquoi on viendrait en plus retirer le peu de ressources qu'il reste pour les autres êtres vivants qui ne sont pas des humains, dans des endroits qui sont déjà un peu condamnés et sacrifiés sur le territoire. Voilà. Après, c'est juste mon humble avis. Je suis tout à fait pour la sensibilisation. Je suis pour aussi de raconter l'histoire même des plantes, de pourquoi est-ce qu'elles sont nommées comme ça. Parce que je pense aussi qu'on peut captiver l'attention par autre chose que juste la simple instrumentalisation du vivant. Que la valeur intrinsèque du vivant peut aussi être captivante, que l'étymologie des mots, que le pouvoir poétique de ce vocabulaire botanique peut aussi venir charmer les cœurs et qu'on n'est pas obligé de charmer les estomacs directement.
On est toujours en compagnie de Coriandre Prudhomme, écologue et présidente de la Belle Garnoule. On parle avec elle des balades botaniques organisées par l'association et de la végétation en milieu urbain.
Durant la balade, je présente un bouquin qui s'appelle « La flore des friches urbaines », qui est très bien vulgarisé et qui va venir un petit peu sur ce terrain de chaque plante va accueillir des insectes, va accueillir des espèces faunistiques bien spécifiques, et on va appeler ça une plante hôte. Cette plante, par exemple l'ortie, va accueillir la majorité des chenilles de papillons devant lesquelles on fait « Waouh, il a plein de couleurs, il est trop beau !» Comme la petite tortue, comme le macao, comme la belle du jour, voilà, le pavon du jour, pardon. On a énormément de ces papillons dont les chenilles se nourrissent principalement, du coup, des orties. C'est un moyen de replacer la plante commune, ordinaire, dans un écosystème où elle a un rôle bien défini, qui est très impactant autant sur les pollinisateurs que du coup sur tout le reste de la chaîne alimentaire qui en dépend, notamment du coup tous ceux qui se nourrissent des pollinisateurs, des insectes, et tous ceux qui se nourrissent également de la plante, les herbivores.
Ces balades servent aussi à sensibiliser du coup les participants, les personnes qui passent après avec les noms qui sont inscrits à la craie, en fait, devant les plantes. Et il y a un point que tu soulèves aussi pendant la balade, c'est que la majorité des données qu'on a sur les plantes, elles sont recueillies par des particuliers, en fait, pas forcément par les scientifiques.
Par des naturalistes. Oui, effectivement, par les naturalistes en France. C'est-à-dire qu'on a des organismes magnifiques qui existent, qui sont des associations naturalistes et qui vont regrouper énormément de bénévoles. Et en fait, la récolte des données est réalisée majoritairement par ces bénévoles en France. Ce sont des passionnés, ce ne sont pas des personnes qui en ont fait leur métier. Donc, c'est assez important de souligner que tout à chacun peut venir amener sa pierre à l'édifice, parce que avoir la donnée, c'est aussi avoir une meilleure compréhension du territoire et savoir ensuite comment orienter les aménagements. Oui, la gestion surtout.
Et ça permet de faire des cartographies des milieux aussi peut-être, sur la région ou la France, enfin même dans le monde j'imagine.
Alors, la cartographie des milieux dans les espaces naturels, oui, c'est essentiel. En milieu urbain, les données récoltées, elles sont beaucoup pour essayer de comprendre ce nouveau milieu. Parce que le milieu urbain, c'est quand même un milieu entièrement créé par l'être humain. Et du coup, toutes les interactions qui sont en cours dans ce milieu sont récentes. C'est-à-dire qu'elles sont le fruit de la mondialisation, de l'import de nouvelles espèces, de la circulation aussi des espèces via nos routes, via les voies ferroviaires. Et donc tout ça, ça crée vraiment des communautés végétales, des ensembles de végétaux qui sont très particuliers et qu'on a encore du mal à comprendre, en tout cas dans les interactions qu'ils ont. Parce qu'il y a des choses qui se passent assez déroutantes, hein. On a des espèces végétales qui normalement ne devraient pas apparaître là, et qui se retrouvent à vraiment s'étendre sur certains secteurs, et puis d'autres espèces animales du coup qui viennent en profiter et qui n'apparaissent plus en milieu rural parce qu'ils ont beaucoup plus de contraintes en milieu rural. Enfin, il y a quand même des choses très étranges qui apparaissent en milieu urbain. Et du coup, ces données-là qui sont récoltées par le citadin vont venir aider à la compréhension de ces nouveaux milieux.
Donc les plantes, elles ne se comporteraient pas de la même manière en ville qu'en milieu plus rural, au niveau reproductif, au niveau sur plein de choses en fait
Sur énormément de choses. Sur énormément de choses. Déjà, c'est comme si vous retrouviez des personnes que vous n'aviez jamais rencontrées de votre vie, tout d'un coup. C'est un peu comme si vous preniez le métro parisien, quoi. Et puis, du coup, vous vous retrouvez à devoir vivre avec ces personnes. C'est pas juste le temps d'aller de la station à une autre. Là, c'est vraiment, vous allez vivre entièrement toute votre vie là. Et du coup, c'est de nouvelles interactions qui sont en train de se créer sur le plan reproductif, sur le plan même symbiotique. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des communautés bactériennes, au niveau des champignons dans le sol, face à ces nouvelles compositions végétales qui, en fait, à chaque fois qu'il y a un végétal qui va venir s'implanter à un endroit, il vient avec toute sa communauté aussi de micro-organismes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tel végétal rencontre un autre qu'il n'avait pas du tout l'habitude de côtoyer ? Est-ce que toutes ces communautés se mettent en interaction ? Est-ce qu'elles sont en compétition ? Est-ce qu'elles sont en symbiose ? Vraiment, plein de questions qui se posent et qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. C'est vrai, quand on voit juste un pied d'arbre avec 5 mégots, 2 pissenlits et puis une pâquerette. Voilà, et on ne se demande pas tout de suite ce qui se passe là.
Il y a des initiatives qui sont mises en place justement pour amener les gens aussi à aller s'intéresser aux plantes urbaines, à les répertorier. Je pense notamment à Sauvage de ma rue.
Ouais, c'est un programme de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle qui a été notamment mené par un de mes anciens professeurs, Nathalie Machon, en coopération du coup avec d'autres entités comme l'Université Paris Sud et des écologues assez renommés comme Philippe Clergeau, une botaniste notamment, Audrey Muraté. Et donc ces programmes-là, ils sont destinés au grand public, ils sont vraiment simplifiés de telle sorte à ce que vous puissiez venir amender très facilement la base de données. Et il faut bien être conscient que la donnée, après, elle est retraitée. Elle va passer dans plein de filtres pour essayer d'évacuer les données qui sont, on va dire, aberrantes. À la fin de tous ces filtres, il y a certaines données qui ne seront jamais intégrées dans la base de données finale.
Tu nous as présenté plein de livres aussi. Lequel tu nous conseillerais pour commencer tout simplement, si demain j'ai envie d'aller à la rencontre des petites plantes de ma rue ?
Moi, je ne jure que par la flore des friches urbaines d'Audrey Murat. C'est parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un stage de botanique à l'École régionale botanique d'Île-de-France. Et elle a vraiment une capacité à mettre à disposition l'information pour les friches de manière très éclairée et surtout en mettant tout à disposition. Vous avez tous les outils pour comprendre facilement les choses. Alors le mieux étant bien entendu d'avoir des bases famille, mais ça c'est pour aller plus vite. Mais en réalité, vous pouvez prendre en main très facilement cet ouvrage. Après, pour les plus flemmards qui veulent juste regarder de temps en temps des couleurs de fleurs, donc faire ça que à la belle saison, il y a bien entendu l'ouvrage Sauvage de ma rue qui est en lien avec le programme et qui du coup répertorie ce qu'on trouve en milieu urbain. Alors il n'y a pas forcément toutes les plantes dans cet ouvrage, donc c'est la seule chose parfois qui manque, c'est qu'on a des petits manques. Et surtout ils ne sont pas répertoriés par micro-habitat comme on peut le voir dans la flore des friches urbaines.
Comme la botanique, ça a ce côté scientifique aussi. Je me demandais si, à ton avis, aujourd'hui, il y a un manque d'éducation scientifique, que ce soit à l'adresse des jeunes ou des plus vieux, ou tout simplement, il n'y a pas assez d'initiatives qui sont faites pour leur donner envie, en tout cas au niveau scolaire, de faire de la science.
Ah bien sûr, la botanique, c'est scientifique, hein, ouais. C'est de la classification, on est sur des critères déterminants pour identifier telle ou telle espèce. Donc c'est une démarche scientifique, logique et très normée. Après, moi pendant mon cursus par exemple, la botanique, j'ai eu le droit à un cours d'écologie végétale, mais c'est tout. Donc c'est-à-dire que c'est à l'initiative des étudiants en écologie scientifique, on est bien d'accord, donc on est déjà dans les sciences dures, de pousser la chose pour avoir une réelle expertise. Et c'est la même chose pour tous les passionnés d'oiseaux, d'insectes. Enfin, ils avaient tous une passion différente, mais c'était sur leurs heures de temps libre. Il n'y avait pas de base expliquée en cours. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu propre à chacun. Après, d'intégrer ça dans les cours, c'est pas dans les programmes. Mais j'ai envie de dire, c'est à l'initiative aussi des enseignants. J'enseigne la biologie, l'écologie et l'agronomie. Il n'y a pas de botanique dans l'intitulé. Et pourtant, ben, en fait, je ne peux pas passer un cours sans les amener sur le terrain, leur expliquer comment cet écosystème fonctionne en leur faisant regarder les plantes bioindicatrices, en leur faisant creuser un trou pour regarder les êtres vivants qu'il y a dedans. Enfin, on a aussi ce côté où peut-être l'enseignement n'a pas forcément à disposition des espaces propices à tout ça. Mais bon, est-ce que la balade au départ du rat perché, il y a de base quelque chose vraiment extraordinaire à voir? Bah, a priori non, et pourtant on a passé une heure à regarder des plantules et à se dire « Ah bah c'est dingue, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais
!» Bah, c'est pour ça peut-être aussi que tu as eu envie de te créer la belle Garnoule, de penser justement à comment montrer le vivant, montrer ce côté scientifique à travers l'art aussi.
Oui, l'aspect créatif, après, c'est comment découvrir effectivement la science de manière beaucoup plus légère et attractive. Ça, c'est, on va dire, c'est l'aventure de la belle Garnoule, c'est l'aventure qui donne envie. Et après, l'arrière-pensée, c'est que on peut pas ingérer d'informations en étant tétanisé par la peur. Donc, c'est un moyen aussi de relâcher la pression et de retourner dans l'émerveillement pur. Et cet émerveillement pur, on a tendance à penser que c'est le sommet de l'Atlas, que c'est une zone humide protégée. Mais je pense que redécouvrir l'émerveillement dans nos quotidiens qui peuvent sembler blafardes parfois, c'est une des premières étapes, les plus importantes peut-être.
Après la balade, retour au café Le Rat Perché pour débriefer avec les participants. Voici quelques témoignages.
Ça fait quelques années déjà que je fais de la botanique, mais j'aime bien voilà, cette ambiance où on va découvrir ensemble les plantes, taguer sur le sol pour que tous les passants puissent en profiter. Ça me plaît beaucoup, donc je reviens. Je suis revenu pour la deuxième fois aujourd'hui. J'ai déjà participé au dispositif Sauvage de ma rue, qui existe toujours, hein, qu'on peut consulter en ligne. On peut renseigner ses observations qu'on fait dans les rues. Pour en faire profiter le Muséum d'Histoire Naturelle.
Alors du coup, pour quelqu'un qui voudrait participer à la balade et qui aurait peur en se disant « j'ai aucune connaissance scientifique », qu'est-ce que tu lui dis ?
Eh ben, que c'est très accessible, que tout est expliqué, que les livres sont fournis, que la balade est... Enfin voilà, c'est très sympa.
J'ai trouvé ça très intéressant, moi c'est la première fois et je trouve ça intéressant d'être un petit peu focalisé sur ce qui se passe à nos pieds. Et puis c'est incroyable la diversité qu'il peut y avoir en ville et ça fait plaisir parce que moi je trouve qu'à Arras il y a pas beaucoup d'arbres, d'arbustes, c'est un milieu très minéral et là, ces petites plantes, c'est réjouissant. Et puis, coriandre, elle sait nous intéresser par rapport à tout ça et puis du coup, on a envie de creuser un petit peu en botanique et je trouve aussi que pour les enfants, ça peut être vraiment sympa parce que ça apparaît rébarbatif, mais finalement, ça peut vraiment les intéresser, voilà.
Puis finalement, on se rend compte aussi qu'il y a plein de plantes qu'on connaît peut-être. Alors, on ne connaît pas le nom latin, on ne s'en rend peut-être pas compte en ce moment parce que c'est l'hiver aussi et on ne reconnaît pas forcément les feuilles. Mais avec la fleur, en été, on peut facilement reconnaître la plante et éventuellement la connaître aussi.
Bah oui, parce que là, c'est le début du printemps, les plantes sont toutes petites, c'est assez compliqué. Mais pourquoi pas revenir si les plantes peuvent pousser en ville. Je ne sais pas si elles finissent par être arrachées, on verra.
C'était bien, ça a appris des trucs et que j'avais de la mémoire finalement.
Ah oui, t'as retenu quoi alors comme plante en latin ?
La poa poacée, la plante avec des cymbales là, et c'est tout.
Est-ce que maintenant tu vas faire attention aux plantes qu'il y a autour de toi, à regarder un petit peu s'il y a le nom écrit à côté ?
Je vais essayer.
Il y en a déjà que tu connaissais d'avant ?
Non. Enfin, pas les plantes avec des noms compliqués.
Même pas le pissenlit ?
Si, le pissenlit quand même.
Oui, alors moi je suis à ma troisième séance de balade botanique depuis décembre. Et du coup c'est toujours un ravissement de voir de réviser, de découvrir de nouvelles plantes à chaque fois. Et donc à chaque fois j'ai fait découvrir la jeune fille d'avant c'était ma fille et la fois précédente mon fils était venu. Donc et je trouve que c'est très poétique et puis coriandre est très passionnée donc elle nous transmet toute sa connaissance avec fantaisie en plus. Donc c'est vraiment toujours agréable.
C'était un entretien avec Coriandre Prudhomme, écologue et présidente de l'association La Belle Garnoule, à propos des balades botaniques organisées par l'association en partenariat avec l'association Les Rats d'en Haut. Pour participer aux prochaines balades, rendez-vous tous les deuxièmes dimanches du mois à 15h au départ du café Le Rat Perché à Arras.